Bien, bonsoir. On va donc commencer. Je tiens à vous remercier de votre présence. On va se présenter individuellement pour que vous ayez une petite idée des raisons qui nous amènent à vous parler ici et maintenant. Je vais présenter, avant qu'on refasse un tour de table, très rapidement, je vais faire un petit historique sur cet ouvrage, puisque, au fond, on n'écrit pas un ouvrage, on ne sort pas un ouvrage tout à fait par hasard. Cet ouvrage a, comme beaucoup d'autres, une histoire, et j'aimerais en deux, trois mots la rappeler. Donc, c'est effectivement, comme vous l'avez vu, c'est un livre qui aborde la question du cancer, qui l'aborde dans une perspective pluridisciplinaire. Donc, c'est un livre qui fait suite à un travail qui a été engagé à Bordeaux, puisqu'à Bordeaux, on a créé un groupe qui s'appelle le groupe Suzanne Sontag. Alors peut-être que ce nom vous dit quelque chose, mais c'est une intellectuelle américaine qui a la particularité d'avoir écrit un certain nombre de choses sur sa propre maladie, et donc elle est décédée il y a assez peu de temps, l'an dernier, d'un cancer. Donc on a créé un groupe qui s'appelle le groupe Suzanne Sontag, et qui a pour particularité d'essayer de rapprocher le monde de la médecine, des sciences humaines et sociales, donc de la sociologie, de la psychologie, de l'anthropologie, voire de la philosophie également. Donc c'est un travail qui est actuellement mené, donc c'est d'ailleurs une sorte de laboratoire, puisque je pense que Bordeaux est assez original sur ce point-là. Donc on a ce groupe dans lequel des médecins, des cancérologues, des sociologues, des psychologues se rencontrent. Et on avait fait un petit colloque il y a maintenant un an et demi. Et suite à ce colloque, on a demandé à certains auteurs de nous donner un papier pour effectivement faire un livre collectif. Donc l'objectif de ce livre collectif, c'est principalement d'offrir une sorte de perspective non seulement sur la maladie, mais sur les différentes approches que les sciences humaines offrent sur cette pathologie. Donc c'est un livre qui comprend un certain nombre de chapitres, on va essayer de les présenter par la suite. On a des chapitres de sociologues, de psychologues, d'anthropologues, de philosophes, j'espère que je n'oublie personne. C'est toujours embêtant quand on fait des livres pluridisciplinaires, parce que c'est toujours très 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 délicat. Il faut surtout ne pas oublier personne. Donc j'espère que je vais oublier personne. Voilà. Donc c'est un livre qui veut avoir un regard pluriel sur le cancer, parce qu'effectivement, je crois que c'est un des grands enjeux de notre société, c'est d'avoir sur les pathologies qui sont des grandes questions de société comme le cancer, un regard qui ne soit pas seulement un regard médical. Je pense que lorsque l'Institut national du cancer, le plan cancer, les grandes priorités des politiques publiques aujourd'hui sur le cancer, c'est d'essayer d'apporter une approche et des réponses globales à cette pathologie, parce qu'évidemment, l'approche purement médicale est évidemment absolument nécessaire, mais les autres disciplines ont également des choses à dire et peuvent aussi apporter aux cliniciens un certain nombre d'éléments pour leur pratique et également pour les pouvoirs publics, également des éléments pour orienter leur politique de lutte contre cette pathologie. Donc je ne vais pas développer plus, on vous expliquera un petit peu plus précisément les différents chapitres, on vous en donnera un aperçu par la suite. Donc je vais me présenter, mes collègues vont se présenter à leur tour, et puis après on parlera un petit peu plus des chapitres. Donc je suis donc le sociologue, comme on dit, de service, donc je m'appelle Emmanuel Langlois. Je suis donc sociologue ici à l'Université de Bordeaux 2. Et donc je suis plutôt sur les questions de santé, voilà. Donc je travaille plutôt, j'ai l'habitude de dire que je fais plutôt une sociologie du malheur, voilà. Bon, j'ai plutôt travaillé sur les mourants, les gens qui ont qui sont séropositifs, les cancéreux, les gens qui sont addicts à l'héroïne, etc., des choses en général très 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 gaies. Et voilà, donc je travaille sur ces questions et dans une perspective, je dirais, et j'en parlerai plus tard peut-être, dans une perspective plutôt qualitative, voilà, et dans l'idée de comprendre un petit peu l'expérience même des personnes qui sont concernées par ces problèmes de santé. Voilà, donc c'est un petit peu là aussi un des aspects de ce livre, c'est d'offrir un point de vue sur le cancer assez particulier de ce point de vue-là. Voilà. Je vais passer donc la parole à Marion qui va se présenter. Voilà.
Bonjour, donc moi je suis Marion Barraud, je suis psychologue à l'Institut Bergonnier. Je coordonne l'unité de psychologie de l'Institut dans laquelle on est maintenant 8 psychologues. Et il est vrai que le plan cancer a largement contribué au développement de postes de psychologues depuis sa mise en place. Donc moi je fais office du psychologue de service pour rebondir sur Emmanuel. L'intérêt, je pense, de faire intervenir des de faire collaborer des psychologues cliniciens dans des groupes pluridisciplinaires, c'est justement peut-être pouvoir faire un pont entre l'université et le milieu clinique, et pas que dans une lecture strictement médicale. Je pense que le groupe Suzanne Sontag a beaucoup contribué aussi à rapprocher finalement des psychologues cliniciens qui venaient de différentes structures et qui n'étaient pas toujours amenés à pouvoir travailler ou à réfléchir ensemble. Donc peut-être que je pourrais en dire un petit peu plus tout à l'heure.
Moi je suis Florence Coussangeli, je suis maître de conférence en psychologie de la santé ici à l'Université de Bordeaux 2. Donc comme Emmanuel, en fait, j'ai un statut d'enseignant-chercheur. Et donc effectivement, l'originalité de ce groupe et de cet ouvrage, c'était de réunir plusieurs universitaires dans différentes disciplines et aussi des psychologues, cliniciens ou des gens qui sont confrontés beaucoup plus dans leur vie quotidienne aux patients atteints de cancer. Donc, je laisse la parole, enfin plutôt se présenter Marie-Lou Bruchon-Schweitzer.
Je te redonnerai la parole.
D'accord.
Alors, je m'appelle Marie-Lou Bruchon-Schweitzer et je suis professeure émérite à l'Université de Bordeaux 2 et je suis assez contente pour cet ouvrage parce qu'il y a une filiation dans tout ça. En effet, il y a pas mal d'années, dans les années 90, j'avais créé un laboratoire, le laboratoire de psychologie, s'il n'y en avait pas, à Bordeaux 2. Et dans les années 2000, à peu près 99 exactement, le laboratoire a été reconnu par le ministère. Il s'est d'abord appelé laboratoire de psychologie, puis laboratoire de psychologie de la santé. Voilà, équipe de psychologie de la santé et maintenant laboratoire santé et qualité de vie. Alors, il y a une longue histoire, évidemment, ici à Bordeaux 2, une histoire d'amour, on pourrait dire, entre psychologues et médecins. Au début, ça n'a pas été très, très facile. Il y avait une certaine... timidité de la part des psychologues à se faire entendre par les médecins de leurs collègues de Bordeaux 2 pourtant, qu'on rencontrait dans toutes les séances du conseil scientifique, etc. Et on n'osait pas, finalement, on les considérait comme des supérieurs hiérarchiques un petit peu. Il y avait une espèce de complexe, on pourrait dire. Bon, même si on dit plus comme ça. Et puis, peu à peu, il y a eu des collaborations qui se sont instaurées avec des collègues médecins qui nous ont sollicités pour faire des recherches dans leur service. Et ils ont été tout à fait étonnés de ce que la psychologie pouvait apporter, et sur le plan qualitatif, le plan relationnel, le plan de l'écoute, mais aussi sur le plan dans le domaine de la recherche. Ils ont été stupéfaits de voir les méthodes dont la psychologie dispose et qui sont souvent des méthodes très, très intéressantes. Voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Et puis, je remercie beaucoup Florence et Emmanuel de m'avoir invité à participer à leur ouvrage. Je suis donc la maman, on pourrait dire, de Florence. Voilà. la maman spirituelle.
Merci Marie-Lou. Alors on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet après toutes ces présentations et puis pour vous donner un petit peu l'origine de cet ouvrage, mais je pense que c'était important. Donc le cancer, bien sûr, c'est, comme l'a dit Marie-Lou Bruchon-Schweitzer ou Emmanuel Langlois, a longtemps été et beaucoup vu encore sur le plan médical. Et c'est vrai que c'est pas un hasard si à l'Institut Bergonnier, il y a maintenant 8 psychologues. Quand j'avais démarré ma thèse, il y a maintenant une quinzaine d'années, il n'y avait pas du tout de psychologue à l'Institut Bergonnier. Il y avait une psychiatre qui faisait quelques vacations et c'était tout. Donc on sent bien qu'effectivement, il y avait le poids médical qui était très important. Et petit à petit, l'importance du vécu par les patients, mais aussi par leurs familles, par leurs proches, est de plus en plus pris en compte et considéré. D'autant plus qu'on a une détresse émotionnelle qui, évidemment, est très importante, et très importante au moment du diagnostic, au moment des traitements. Mais il faut savoir qu'il y a à peu près 20 à 40 % des sujets qui vont développer des troubles psychologiques chroniques. Donc, pas qu'une anxiété, une dépression ou une symptomatologie anxieuse ou dépressive au moment de l'annonce, qui est tout à fait normal de réagir de cette façon-là, mais une anxiété, une dépression qui va quand même durer pendant un certain nombre de temps. Et ça s'est retrouvé, bien sûr, en France, mais dans la littérature internationale, environ 30% des sujets. Donc, évidemment, c'est pas du tout négligeable, ce type de réaction. Donc la psychologie, naturellement, s'est intéressée à cette détresse émotionnelle. Ça fait partie, bien entendu, de son histoire, alors tant au niveau de la prise en charge des sujets, mais aussi d'un point de vue recherche. Et c'est vrai qu'avec Marie-Lou Bruchon-Schweizer et au niveau du laboratoire de psychologie, ce qui nous a particulièrement intéressés, c'était de savoir quels sont finalement les facteurs qui peuvent... Pas prédire, mais en tout cas essayer d'expliquer pourquoi certains sujets vont développer des troubles psychologiques chroniques et d'autres pas du tout. Et est-ce que finalement on pourrait aussi prévenir et pas simplement, je dirais, guérir une fois que les sujets ont développé ces troubles, mais est-ce que finalement on peut pas aussi faire ce travail en amont ? Donc on a effectivement développé un certain nombre de recherches pour essayer de prévoir ou en tout cas d'essayer d'identifier quels sont les facteurs qui seraient plus à risque que d'autres. Alors bien entendu, c'est très difficile de développer ce type de recherche parce que l'être humain est quand même relativement complexe. Donc il y a comment la personne va réagir à l'annonce de la maladie, mais aussi bien entendu comment son entourage va être présent ou pas, comment il va réussir ou pas d'ailleurs à aider le patient, et est-ce que ça peut aussi être un facteur qui va augmenter ou diminuer cette symptomatologie anxio-dépressive. Donc ce qu'on peut dire à l'heure actuelle de la littérature internationale et des travaux qu'on a pu faire, c'est vrai qu'on commence, mais je dirais qu'il faut rester très prudent encore à l'heure actuelle, on commence à entrevoir quelques facteurs ou quelques dimensions qui pourraient expliquer pourquoi certains sujets vont plus que d'autres développer des troubles anxieux et dépressifs. Et dans le laboratoire, on a beaucoup travaillé sur la façon dont les sujets vont réagir à l'annonce du diagnostic, à l'annonce des traitements. Et est-ce que cette réaction ne peut pas aussi finalement être un signe précurseur de ces troubles psychologiques qui vont se développer par la suite ? Donc c'est ce qu'on appelle le coping. Donc on a gardé en fait ce terme anglais que certains connaissent, qui veut dire faire face à, littéralement. Et en fait, on a recensé des grandes stratégies de faire face. Alors des stratégies qu'on va appeler soit centrées sur le problème, c'est-à-dire que la personne va essayer d'agir activement pour faire face à la maladie. Alors c'est vrai qu'une maladie comme le cancer, c'est pas notamment facile hein, en fait, d'agir directement sur la situation, mais ça se développe beaucoup sur un plan cognitif, c'est-à-dire on va penser qu'on va pouvoir faire face, qu'on va garder un esprit fort et qu'on va finalement réussir à combattre et sortir plus fort de cette épreuve. Donc certains auteurs appellent cela l'esprit combatif, même si c'est une dénomination qui peut paraître un petit peu surprenante. Et puis on a des stratégies qu'on va appeler plutôt centrées sur l'émotion, c'est-à-dire que on ne peut pas véritablement faire quelque chose directement, si ce n'est suivre son traitement, bien entendu, aller voir son médecin, mais on va plutôt essayer de gérer la situation émotionnelle forte induite par la situation. On va appeler ça les stratégies centrées sur l'émotion, où là, le sujet va essayer, par exemple, de se distraire, de penser à autre chose pour éviter d'être submergé par l'émotion, ou va minimiser la maladie, c'est aussi des réactions que l'on peut observer, ou encore va essayer d'avoir une pensée positive pour là aussi donc éviter d'être trop submergé par les émotions. Donc un certain nombre d'études, et donc que ce soit par des entretiens ou on a développé aussi des outils comme des questionnaires qui peuvent évaluer ces stratégies, on s'est demandé est-ce que les différentes façons de réagir, est-ce que ça peut être associé à donc ces troubles anxio-dépressifs. Alors même certaines études qui vont plus loin, hein, qui vont même, est-ce que ces stratégies de coping peuvent aussi agir sur l'évolution de la maladie. Donc là, bon, évidemment, faut être aussi très prudent. Mais en tout cas, sur l'anxiété, la dépression, la qualité de vie de façon plus générale. Effectivement, les stratégies centrées sur l'émotion, on essaie de réguler ses émotions pour avoir gardé un esprit un peu positif vis-à-vis de la maladie, semblent plutôt protecteurs vis-à-vis de l'anxiété ou de la dépression. Alors que par contre, les gens qui sont complètement submergés et qui n'arrivent pas à faire face en fait à cette émotion très forte, c'est une des stratégies qui semble être la plus associée négativement à la qualité de vie ou au bien-être des patients. L'esprit combatif, il y a eu dans la littérature un certain nombre d'études qui, d'ailleurs les premières études montraient plutôt que c'était associé à un bon ajustement, les gens étaient moins anxieux, moins déprimés. Alors je dirais que c'est relativement vrai pour les premiers temps de la maladie, mais on s'aperçoit que si le patient garde un petit peu cette stratégie, c'est plutôt néfaste, c'est-à-dire que c'est comme si un petit peu on se battait contre des moulins à vent, et parfois de garder cette stratégie, ça peut amener aussi un certain découragement des patients qui voient que finalement, bah, malgré cet esprit combatif qu'ils ont essayé de garder, bah, malheureusement, la maladie n'avance pas toujours de façon favorable et ça peut aussi aboutir au découragement. Donc là, on travaille aussi beaucoup actuellement sur finalement la flexibilité de ces stratégies. C'est-à-dire que finalement, c'est peut-être pas une stratégie en tant que telle qui va prédire l'anxiété ou la dépression. Enfin, prédire, c'est un terme qu'il faut rester là aussi prudent, hein, qui va être associé à l'anxiété et la dépression, mais ça serait plutôt finalement la capacité que le sujet a à s'adapter, donc à changer de stratégie de coping, et pas tellement une stratégie en tant que telle. Donc là, vous avez effectivement une partie, hein, de l'ouvrage qui est consacrée à ces travaux dont je viens de parler. On a une autre grande partie de l'ouvrage qui concerne le rôle de l'entourage. Alors c'est vrai qu'il y a eu assez récemment des états généraux pour essayer de prendre en compte le rôle de l'entourage. Donc je dirais qu'on voit qu'on évolue petit à petit. Hein. Au départ, c'était finalement relativement médical. Puis après, on a pris en compte la dimension psychologique de la maladie avec le patient, et on s'aperçoit que finalement l'entourage est aussi rudement mis à l'épreuve, et les études vont même jusqu'à montrer que finalement l'entourage est voire plus anxieux et voire même à une symptomatologie dépressive supérieure à celle du patient, parce que finalement l'entourage est confronté à la fois au fait qu'il doit être resté fort et aider le patient, et en même temps il est très démuni en fait et très très peiné bien entendu par l'annonce de la maladie de son proche. Donc là, on a plusieurs chapitres qui sont consacrés au rôle du conjoint, ou aussi comment la maladie peut affecter la fratrie, donc les frères, les sœurs, donc lorsque un enfant est atteint d'une pathologie cancéreuse. Il est vrai que en fait, la littérature montre deux plans. Soit c'est plutôt destructeur au niveau de la famille et les familles vont avoir du mal à faire face, soit au contraire, ça peut renforcer des liens. Mais je dirais que finalement, ça ne peut renforcer que des liens qui étaient existants ou des liens qui vont se distendre parce qu'ils étaient déjà distendus au départ. Il n'y a pas vraiment, par contre, d'études qui montrent que l'événement cancer va amener plus de divorces, etc. Il y a eu, à un moment donné, de la littérature qui disait cela et en fait, ça n'a pas véritablement été confirmé par la suite. Par contre, ce que les travaux montrent, c'est que lorsqu'il y a une bonne relation conjugale, effectivement, bien, c'est protecteur vis-à-vis de l'anxiété, de la dépression, à la fois des patients et à la fois des conjoints. Donc la place des frères et sœurs au sein de la famille, je vous le disais, fait aussi l'objet d'un chapitre qui montre que les enfants prennent très, très à cœur en fait, hein, cette nouvelle identité de frère ou de sœur qui, eux, sont en bonne santé versus, évidemment, le frère ou la sœur qui est en mauvaise santé. Et ils vont vraiment s'engager dans ce nouveau rôle en minimisant les sources d'ennui. Ils ne veulent pas être un ennui supplémentaire pour les parents. Ils vont adopter une attitude de protection vers l'enfant malade et envers donc, ses frères et ses sœurs. Et en particulier, ils paraissent particulièrement sensibles au maintien d'une bonne cohésion familiale. Donc ils vont vraiment prendre beaucoup sur eux, ce qui est finalement aussi une forme de stratégie d'ajustement ou de coping, ces nombreux changements qui sont provoqués par l'arrivée du cancer. Donc j'ai beaucoup parlé des patients, de l'entourage, comment ils allaient aussi faire face à cette maladie. Il y a bien sûr aussi l'atteinte du corps, et donc Marie-Lou Bruchon-Schweitzer, qui est une des spécialistes aussi de ce concept de corps, a eu la gentillesse de faire un chapitre. Mais les sociologues ont aussi beaucoup investigué la question du corps, et notamment aussi comment ce corps finalement devient un peu étrange pour le patient lui-même, et devient aussi étrange pour l'entourage, pour les proches. Et donc il y a aussi un très joli chapitre qui illustre très, très, très bien ce processus de défamiliarisation finalement du corps, ou qui devient finalement relativement étrange. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Emmanuel, parce que c'est vrai que c'est une partie qui est beaucoup développée par la sociologie dans l'ouvrage, et puis ensuite à Marie-Lou Bruchon-Schweitzer sur la question du corps en psychologie.
Oui, donc je vais juste faire un petit survol en quelque sorte des chapitres qui sont plutôt consacrés aux approches sociologiques ou anthropologiques. Il y a aussi beaucoup de travaux d'anthropologues dans ce travail. Alors c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude, enfin, on a plutôt l'habitude de voir les sociologues traiter ou apporter des questions, des grandes enquêtes, des grandes statistiques. Et effectivement, dans ce livre, c'est pas tout à fait le cas, puisque là, au fond, tout le monde travaille plutôt sur une approche plutôt qualitative, en fait. Je pense que c'est une des caractéristiques de la sociologie de la santé, en tout cas des gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle l'expérience de la maladie, que évidemment d'avoir des approches qualitatives, donc c'est-à-dire des approches où les gens font des enquêtes par entretien, essaient de voir au fond de faire des observations sur comment les gens vivent au quotidien. Donc des choses assez, des méthodes assez douces, et en tout cas pour essayer de comprendre, non pas dans les grandes populations, comment on gère ce type de problème, mais au plus près, au fond, de la vie quotidienne. Alors dans cet ouvrage, effectivement, on a plutôt cette approche qualitative, on a plutôt une sorte de souci, au fond, de comment les gens se débrouillent dans la vie quotidienne. Hein, c'est ça, sous-entendu que, évidemment, il y a une série d'épreuves que chaque individu va devoir relever, et donc devoir mettre en place des systèmes, des dispositifs, des ressources pour, dans la vie quotidienne, essayer de gérer au mieux cette maladie et ses conséquences sur tout un ensemble de points. Donc, les sociologues, les anthropologues posent un certain nombre de questions. Alors, il y a beaucoup d'ailleurs de questions qui sont assez communes maintenant avec les psychologues. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux sur, par exemple, les dispositifs d'annonce, par exemple. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans quel contexte, on produit de l'annonce, au fond, dans quelle situation, dans quelles conditions on annonce les pathologies, dans quelles conditions on annonce un cancer. Donc, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, il y a des travaux qui sont menés en particulier auprès des radiologues, puisqu'on s'est rendu compte que beaucoup d'annonces étaient en fait réalisées par les radiologues, alors qu'on a toujours pensé que c'était plutôt l'affaire du médecin, mais en général, lorsque les gens sont face au médecin, ils savent déjà, donc les problèmes d'annonce sont aussi déjà posés. Donc sur la question de l'annonce, c'est un grand classique de l'expérience de la maladie, puisqu'au fond, c'est l'entrée. Hein, l'annonce est un moment un peu symbolique, c'est l'entrée dans une nouvelle trajectoire de vie. Donc c'est un petit peu un moment inaugural, et donc évidemment, on considère que les conditions dans lesquelles on entre dans la maladie sont déterminantes dans la manière dont on va vivre par la suite cette pathologie. Donc évidemment, si on a des conditions d'entrée plutôt catastrophiques, les individus vont avoir beaucoup plus de difficultés à gérer leur pathologie, etc. Les questions également qui sont communes, c'est les questions sur la qualité de vie. Donc là, on est vraiment au cœur, j'allais dire, de la vie quotidienne. C'est-à-dire toutes les questions, par exemple, relationnelles, j'y reviendrai par la suite, mais il est évident qu'on sent bien que c'est l'enjeu pour les personnes, c'est au fond comment conserver des relations sociales ordinaires, normales et plutôt favorables dans la perspective de lutter contre la maladie au jour le jour. Hein, donc là aussi, on sent bien, et dans toutes les enquêtes, quand on fait des entretiens, on voit très bien que les gens sont très très préoccupés par ça et font des efforts, font des investissements sur ces questions relationnelles au fond. Hein. Alors, il y a dans cet ouvrage une série donc de chapitres qui posent peut-être des questions qui sont peut-être plus spécifiques aux sociologues et aux anthropologues. Je ne fais pas tellement la différence. Mais par exemple, autour de la question d'identité. Hein. Par exemple, évidemment, on se pose toujours la question de savoir comment le cancer transforme l'identité, parce qu'il est évident que le cancer ou la pathologie grave transforme l'identité individuelle. Prenons un exemple tout à fait très très simple. La pathologie grave va souvent désarticuler des ajustements générationnels. Par exemple, ça va être aux enfants, parfois, de s'occuper de leurs parents. Hein, chose qui est tout à fait... c'est à l'occasion de la maladie que ce retournement identitaire s'effectue. Donc, c'est-à-dire que l'identité de parent se trouve mise en défaut, puisque, au fond, dans l'identité de parent, il ait compris qu'on s'occupe, on veille, on surveille parfois aussi ses enfants, avec la pathologie grave, ce rapport-là a tendance à se retourner, par exemple. Hein, c'est-à-dire que c'est les enfants qui vont faire attention aux parents, qui vont être prévenants, parfois trop, qui vont pas tout à fait toujours tout à fait bien comprendre ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire, etc. Donc on a des relations comme ça qui sont très structurantes, et comme les relations parents-enfants, qui sont déstabilisées par la survenue de la maladie grave. Bon. Donc les questions d'identité se posent, puisqu'effectivement, lorsque les parents font l'expérience de leur fragilité, en quelque sorte, on sent bien que c'est tout le rôle de parent qui vacille ou qui est à redéfinir. Donc les sociologues travaillent aussi sur les questions de sens. Donc là aussi, on a beaucoup de travaux, et notamment aussi avec les anthropologues, sur la question de sens. Au fond, ça consiste à dire une chose très simple, c'est que le sens d'une pathologie, le sens de la maladie n'est pas défini à l'avance. Chaque personne va, au cours de son expérience de la maladie, va construire un sens à sa maladie. Au fond, pour caricaturer, on pourrait dire qu'il y a presque autant de maladies qu'il y a de malades. Donc, évidemment, pour certains, la maladie va sonner comme une sorte de punition. J'ai fumé toute ma vie, j'y ai droit, ben, tant pis pour moi. D'autres vont penser ça comme une injustice. D'autres vont voir ça comme une épreuve salutaire. Finalement, c'est le signe que je dois réorganiser ma vie et vivre mieux, bon, etc. Donc, au fond, le rapport à la maladie va interroger tout à fait profondément les gens et ce qu'ils mettent au cœur de leur vie. Donc, on a ici des questions de sens qui sont tout à fait très importantes. Et souvent, dans les entretiens, une grande partie des gens, enfin des entretiens où les gens expliquent au fond. Quel sens ils donnent à la maladie? Quel sens ça a pour eux? Qu'est-ce que ça change dans leur vie? Qu'est-ce que ça, quel sens cette pathologie-là a par rapport à leur histoire de vie personnelle, en quelque sorte. Il y a un autre chapitre là aussi qui est consacré aussi à la question des proches, pardon. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Florence, c'est une grande question aujourd'hui. Vous savez qu'on a même inventé une sorte de concept, de science même, qui est consacrée aux proches. Hein, c'est la proximologie. Donc ça montre bien à quel point on considère que le retentissement, le choc que produit la maladie n'est pas concentré dans la personne ou dans le corps de celui qui est atteint par cette maladie, mais va aussi se répercuter, au fond, dans son environnement, dans ses relations sociales et parmi ses proches. Donc, effectivement, là, il y a toute une série de travaux qui essaient de comprendre comment les proches, d'abord, interprètent cette épreuve et vont essayer de s'adapter également à cette épreuve et tout le travail qu'ils essaient de faire pour s'ajuster au mieux à la personne malade, donc parfois avec beaucoup de... ça peut provoquer des conflits très 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 importants, par exemple. Hein, vous savez, la personne qui passe et qui dit, laisse ça, ne porte pas ça, tu es malade. Et puis la personne dit, non, mais je suis malade, certes, mais je peux quand même porter ma valise. Ou la personne qui passe et qui a du souci, qui ferme la fenêtre et en pensant que tu es malade, donc tu es fragile, et la personne qui dit « Non, moi j'aime bien les pièces aérées, même si je suis malade, j'aime toujours les pièces aérées. » Donc il y a des incompréhensions totales entre les proches et les personnes malades. Et au fond, il y a des problèmes, il y a des périodes d'ajustement, au fond, entre les malades et leurs proches. Donc les questions aussi de trajectoire, donc ça c'est c'est une approche assez différente sur le cours de la vie. Au fond, qu'est-ce que ça change? C'est vrai que dans toutes les pathologies graves, on observe à peu près la même chose, dans le cancer aussi. Vous avez toujours des gens qui vous disent, j'ai repris mes études, bon, j'ai changé de boulot, j'ai divorcé. Bon, bref, la maladie est l'occasion de changer quelque chose dans sa vie et l'occasion d'impulser un changement dans le cours de sa vie. Hein, donc ça, c'est tout à fait fréquent. dans les... Et ce n'est pas forcément, je dirais, dû à l'impact même de la maladie. Hein, c'est peut-être justement les individus qui réfléchissent sur leur propre trajectoire et qui, à l'occasion de la maladie, veulent changer des choses. Donc on a toutes ces questions. On a aussi les questions sur qui sont plus proches des soins. C'est-à-dire bah, comment ces malades font l'expérience des soins. Parce qu'effectivement, dans le cancer, les soins sont lourds, sont importants, ont des conséquences propres sur le corps. Alors, par exemple, les questions de douleur. Alors, c'est vrai que sur le cancer, on dit souvent beaucoup de cancers sont silencieux, etc. etc. et que les douleurs, lorsque les patients parlent des douleurs, c'est surtout de la douleur causée par les traitements. Voilà. Donc c'est aussi une maladie particulière. On a une maladie qui est silencieuse et puis on a des traitements qui sont douloureux. Donc c'est aussi, il y a beaucoup de choses là-dessus, donc en particulier la question de la douleur, parce qu'effectivement c'est ce qui matérialise évidemment le plus la maladie, l'expérience de la maladie. Donc on a beaucoup de travaux sur la douleur, sur comment les gens vont gérer ces douleurs. D'ailleurs des travaux qui sont vraiment à la frontière entre la psychologie et la sociologie, et donc on a tout ça. Donc effectivement, on pourrait continuer comme ça sur toutes les questions que ces sciences humaines et sociales abordent aujourd'hui sur le cancer. Et on verrait aussi que, en tout cas c'est le point de vue des sociologues et des anthropologues, c'est de montrer que ces épreuves ne sont pas seulement individuelles. Ce ne sont pas seulement des épreuves individuelles, mais elles sont aussi sociales. C'est-à-dire qu'elles posent la question des moyens que l'on va se donner collectivement pour faire face à cette maladie. Les moyens donc, qu'on va se donner collectivement pour aider les malades à faire face. Parce qu'effectivement, là aussi, il y a un certain nombre de problèmes et ça renvoie à tout ça. C'est-à-dire que on peut s'interroger sur les moyens économiques que la collectivité va mettre sur la table, en quelque sorte, pour gérer ces questions. Le statut qu'elle donne à ces questions, les efforts collectifs que l'on va faire pour traiter ces questions. Vous savez qu'il y a des pathologies pour lesquelles, même si elles sont très répandues, elles sont assez peu prises en charge. Vous avez des pathologies qui ont un impact sanitaire faible, mais qui sont très, très, très prises en charge. Donc il n'y a pas de lien direct, si vous voulez, entre la gravité d'une maladie, son caractère plus ou moins épidémique, et le fait que, et l'importance que l'on va consacrer à cette maladie. Donc les moyens qu'on va accorder à ces pathologies, c'est aussi des moyens sociaux. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire pour que, par exemple, tous les patients aient accès aux soins. Donc ça, c'est la question, par exemple, de l'inégalité des individus face aux soins. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que nous sommes dans des sociétés où les individus ne sont pas en situation d'égalité, ou en tout cas n'ont pas toutes les mêmes chances d'accéder aux mêmes soins dans le système sanitaire. Bon. Donc il y a des inégalités de santé, il y a des discriminations. Donc effectivement, les sociologues, les anthropologues vont aussi poser ces questions parce que effectivement, ce sont des questions qui sont des questions induites par ces histoires de cancer et par ces histoires qui résultent lorsqu'on s'interroge de comment les gens vivent leur maladie et quelles sont les conséquences de cette épreuve-là, qui est encore une fois une épreuve à la fois individuelle et sociale. Donc, au fond, c'est un petit peu ce que je pouvais vous dire assez rapidement pour essayer de décrire un petit peu la manière dont les sociologues et anthropologues se représentent les choses, se posent les questions. Alors évidemment, là aussi, nous ne sommes pas tout seuls dans notre coin à nous poser ces questions. Souvent, on travaille effectivement avec soit des cliniciens, soit d'autres collègues d'autres disciplines, des sciences humaines. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un enjeu autour de ces questions. Il y a un enjeu pour essayer de comprendre globalement ces questions. Voilà. Et je pense que l'intérêt de ce bouquin, encore une fois, c'est d'offrir une sorte d'éventail de questions qui traversent nos disciplines pour essayer de montrer toute la pluralité des enjeux autour de la prise en charge du cancer et de l'expérience de cette maladie aujourd'hui. Voilà, je vais peut-être passer la parole à Marie-Lou maintenant.
Mais je crois que Emmanuel vient un peu de traiter le sujet que je voulais aborder. Je voulais aborder le problème du corps malade, parce que dans notre société particulièrement qui valorise la jeunesse, la beauté, la santé, les corps intègres, des corps magnifiques, les médias qui nous montrent sans arrêt des corps absolument parfaits, c'est vrai que quand le corps est malade, quand il est atteint dans son intégrité, il y a quelque chose qui s'écroule. C'est une espèce d'image qu'on avait de nous-mêmes, cette image qui était peut-être un peu faite d'illusions d'ailleurs, que ça ne pouvait pas nous arriver à nous, que de toute façon, on était particulier, on était protégé. Et c'est vraiment une crise extrêmement profonde qui touche vraiment l'identité. Quand le corps est malade, et surtout quand il y a un diagnostic de cancer qui est posé, il y a un bouleversement de notre identité. C'est-à-dire on n'est plus du tout la même personne. On bascule, de bien portant, on bascule du côté des personnes malades avec des perspectives très incertaines, des questions. Emmanuel en a abordé une grande partie de ces questions. La question, c'est souvent la recherche de sens. Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour avoir mérité ça? Et avec toutes sortes de... un peu de culpabilité, souvent. L'impression que c'est un châtiment, que c'est une punition pour des fautes passées, souvent imaginaires. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? En tout cas, pourquoi ça m'arrive à moi? Et cette période de crise, tous les collègues l'ont dit, il y a toute une série de facteurs qui vont permettre d'en sortir. Tout d'abord, les ressources de la personne elle-même, bien sûr. Il y a des ressources énormes chez les patients, et on est toujours très très surpris dans les entretiens de voir combien les gens vont puiser dans leurs ressources au point de réconforter parfois leurs proches qui vont pas bien. D'où vient toute cette énergie? Ils ont des ressources énormes. Florence a parlé de coping. On peut parler de ressources pour faire face. Enfin, on peut employer le terme qu'on veut. En tout cas, ces ressources sont là. Il y a une énergie considérable qui est dépensée pour faire face et surtout à l'incertitude, à l'avenir. Alors, généralement, après cette crise, il y a, grâce aux soignants, grâce à des autrui qui vont jouer un rôle particulier d'écoute, il y a généralement, après une période de traversée de l'horreur, il y a souvent, dans la plupart des cas même, un rebond, un redémarrage. Il y a une psychologie positive actuellement, c'est tout un nouveau domaine de la psychologie qui s'intéresse à ce qui se passe après un traumatisme. L'annonce d'un cancer peut être considérée comme un traumatisme quand même pour l'individu. Et la psychologie s'intéresse à ça. Qu'est-ce qui se passe après un traumatisme? Généralement, chez la plupart des individus, à condition qu'ils soient entourés, qu'ils soient écoutés, qu'ils soient soutenus, qu'on écoute ce qu'ils ont à dire, y compris quand c'est faux, quand c'est complètement faux, qu'on prenne en compte, qu'on ne dise pas « mais non, tu te fais des idées, c'est pas du tout comme ça », voilà. Y compris chez les soignants, il faut vraiment prendre le temps d'écouter ce que les patients ont à dire, ça c'est très très important. Mais généralement, il y a, après cette période de crise, un rebond, un redémarrage, qu'on peut appeler un développement post-traumatique. Et ça, c'est vraiment très intéressant de tout faire pour que ce développement post-traumatique puisse avoir lieu. Et donc, c'est pas gagné, parce que souvent, face à une telle maladie, l'entourage réagit de façon un peu maladroite. Et ça se comprend, ça nous fait peur. Le cancer fait peur à tout le monde, y compris même aux soignants, dont c'est le métier, qui ont parfois peur des personnes malades et se réfugient derrière des préoccupations uniquement médicales ou derrière des soins pour ne pas avoir abordé la question de ce que la personne est en train de vivre. Voilà. Mais enfin, mon message est quand même assez optimiste, c'est-à-dire que quand toutes ces écoutes peuvent avoir lieu, généralement, ce qui se passe souvent, et Emmanuel l'évoquait, c'est finalement une reconstruction. La personne se reconstruit et dit finalement, cette expérience a été pour moi très positive dans ma vie. Voilà, je repasse la parole à Emmanuel ou à Marion.
Moi, j'avais envie de rebondir sur ce que mes collègues chercheurs ont beaucoup souligné, c'est cette histoire de la mise en sens et de la recherche de causalité qui, finalement, est toujours une causalité individuelle et non pas inscrite de façon globale. Et comment, via le travail d'élaboration psychique qui peut se faire dans le cadre d'une consultation psychologique notamment, l'individu déstabilisé par l'annonce de la maladie peut peut-être parfois aussi trouver une façon de répondre aux questions qui se posent sur oui, pourquoi moi, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui fait que je me sens tellement débordée par ce qu'on vient de m'annoncer alors que rationnellement, peut-être qu'on m'a très bien expliqué les traitements, que je sais que c'est pas si grave, mais ce bouleversement émotionnel, il convient d'être accompagné. Ce que je trouve important, c'est via le plan cancer, via aussi ce type de collaboration plurielle, c'est de faciliter une réflexion autour de la consultation psychologique, autour de ce qu'on appelle les soins de support. Donc tout ce qui peut être mis en place autour de l'individu et qui n'est pas strictement du soin médical, donc la chimiothérapie, la chirurgie ou la radiothérapie principalement. Donc il est vrai que c'est aussi dans ces préoccupations autour de comment faire une bonne annonce, qu'est-ce que c'est favoriser l'accès à l'annonce adéquate, aussi du côté du médecin et du côté du malade. Il y a eu cet effort de réflexion qui a pu être mis en place et les états généraux des malades, le plan cancer, ont vraiment été un élan extrêmement important pour pouvoir développer des dispositifs d'annonce qui permettaient d'évaluer très précocement finalement les besoins psychosociaux du patient et de son système familial pour essayer de lui proposer des ressources, donc et sociales et psychologiques, pour lui et aussi pour ses proches. Donc on voit qu'au travers du livre, la question de la fratrie, la question du couple, la question des répercussions familiales deviennent de plus en plus centrales. Et c'est vrai que je trouve extrêmement important de s'appuyer sur des travaux de recherche qui aussi nous donnent une lecture des bonnes pratiques ou des pistes de réflexion dans lesquelles il conviendrait de s'engager. Parce que quand on est peut-être pris dans la routine clinique aussi, on a parfois du mal à prendre du recul. Et je trouve extrêmement important cette collaboration entre les chercheurs, les cliniciens, qui permettent aussi de faire un échange plus fructueux et une réflexion intéressante. Et au niveau, l'important, c'est, je pense, de proposer des choses qui permettent une amélioration du confort pour le patient, pour les équipes soignantes et pour les familles. Donc, je pense que c'est dans cette interface-là qu'on se doit de travailler à plusieurs. Donc, moi, je suis contente de voir que, petit à petit aussi, du point de vue médical, l'intérêt de travailler avec des autres non-médecins, ça paraît plus évident, plus facile. On est plus sollicité précocement aussi, avant des situations où ça échappe, où ça déborde, où on ne sait plus comment faire. Et du coup, toutes les répercussions psychologiques qu'on a évoquées, qui peuvent devenir chroniques, on peut aussi les éviter. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais rajouter.
Merci, merci à tous.
Voilà. Merci encore.